Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Demain, jeudi, c'est la première journée internationale du zéro déchet. Alors, zéro déchet, on en est encore loin dans le monde. Pensez donc, chaque année, ce sont 2,24 milliards de tonnes d'ordures qui sont générées. Et l'avenir ne prête pas vraiment à l'optimisme, car d'ici 2050, on estime que ce chiffre, donc 2,24 milliards de tonnes, pourrait augmenter de 70%. Alors, l'humanité va-t-elle être ensevelie sous les poubelles ? On n'espère pas. En tout cas, face à une telle perspective, les initiatives zéro déchet se multiplient. On va en parler dans cette émission. Mais est-ce que cet objectif zéro déchet est possible ? C'est la question qu'on pose ce soir. Comment moins jeter ? Comment mieux jeter ? Et puis, est-ce que tout cela est vraiment la priorité dans la lutte contre la crise climatique ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Juliette Franquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'association Zero Waste France. Face à vous, Célia Renson, bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondatrice, directrice générale de l'association Réseau Vrac. Et notre troisième invitée en ligne avec nous, Anne-Cécile Bras. Bonsoir Anne-Cécile.
Bonsoir.
Vous la connaissez sur l'antenne de RFI. Jean est spécialiste de l'environnement à RFI, productrice de l'émission C'est pas du vent, qui est diffusée le jeudi et le vendredi 14h10 TU. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, je voudrais commencer par un ressenti. Juliette Franquet, vous qui vivez dans la région parisienne, la grève des éboueurs, suspendue depuis ce matin, elle durait depuis 3 semaines dans la capitale. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous qui êtes directrice de cette association Zero Waste France, de voir cet amoncellement de poubelles, d'ordures dans les rues de Paris ?
Bah, c'est forcément choquant pour certaines personnes qui ne vivent pas dans le milieu des déchets, mais pour nous qui visitons occasionnellement des centres de traitement, des centres de tri, on sait qu'en fait on produit énormément de déchets. Donc effectivement, il y a un impact visuel de les voir un peu partout dans la rue, mais nous on savait qu'ils existent et que c'est urgent de les réduire partout sur notre territoire.
Ça a pas créé un déclic, parce qu'on dit que dans la tête des gens, il y a pu avoir ce déclic de voir toutes ces poubelles, ça a fait prendre conscience. On parle de la France, mais on ne va pas parler que de la France dans cette émission. 496 kilos de déchets ménagers générés chaque année par chaque Français.
C'est énorme, c'est beaucoup trop. Et il faut garder en tête qu'il y a quelques décennies, c'était beaucoup moins et que là, on est en train de réaccélérer. Donc, c'est assez inquiétant. Oui, effectivement, on espère que ça crée un choc qui sensibilise encore plus de personnes. Après, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est qu'on change les modes de production et de consommation et que à partir d'une nouvelle sensibilité de prendre conscience de tous ces enjeux, on puisse mettre en place une société qui vraiment, à l'échelle collective et des politiques publiques, permette de réduire les déchets sur le long terme.
Parce qu'aujourd'hui, les déchets, le gros problème, c'est quoi ? C'est qu'ils ne sont pas suffisamment recyclés ?
Il y a beaucoup de problèmes, mais d'ailleurs, en fait, le mot « waste » en anglais, ça veut dire à la fois « ressources » et « déchets ». Nous, ce pourquoi on se bat, c'est qu'on prenne en compte les limites planétaires et qu'on réduise l'extraction de ressources de matières premières, parce qu'en fait, les déchets, c'est juste la dernière étape du cycle de vie d'un produit, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, en fait, quand on produit quelque chose, un emballage, un vêtement, etc., l'impact environnemental, il est d'abord à la production. Et le problème, par exemple, si on prend l'exemple du plastique, depuis le début du plastique des années 50, il y en a à peine quelques pourcentages qui sont encore en circulation. Et en fait, on est dans un modèle de société où on prend, on jette, on s'en rend pas compte. Et ce qu'on voit dans les poubelles à la fin, ça a un impact énorme. Mais la production de tous les objets qui sont parfois inutiles est encore pire.
Anne-Cécile Bras, on parle de la France, mais c'est clairement pas le plus mauvais élève en termes de production de déchets. J'ai lu que les Américains, c'est quasiment le double. C'est 812 kilos de déchets ménagers générés par an, par habitant. On a toutes ces images aussi dans certains pays d'Afrique, d'Asie, où parfois des sacs plastiques qui volent. C'est vraiment une priorité, la lutte contre les déchets, d'un point de vue écologique, évidemment.
Alors, d'un point de vue mondial, c'est évidemment une priorité. Après, c'est loin d'être le cas. Oui, en effet, les Américains, c'est 812 kilos par habitant. Bon, c'est beaucoup moins, évidemment, en Afrique, puisque en Afrique subsaharienne, par exemple, c'est moins d'un kilo. Enfin, c'est beaucoup moins par année. Après, quand j'écoutais votre description des rues parisiennes, j'ai envie de dire, finalement, Paris est comme une grosse partie du monde, puisque selon la Banque mondiale, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès aujourd'hui à un service services d'enlèvement des déchets ménagers. Il y a 4 milliards de personnes qui utilisent des décharges illégales ou non réglementées et ces décharges accueillent plus de 40% des détritus qui sont produits dans le monde. Donc, par exemple, en Afrique subsaharienne, là, il y a plus de 70% des déchets qui sont déversés dans des décharges à ciel ouvert. Alors, nous, ça nous fait bizarre, évidemment, puisqu'on a normalement un service de collecte, etc., qui gère ces déchets qu'on ne voit pas. Mais finalement, c'est comme cela dans de nombreux pays du monde, avec des conséquences très importantes, notamment sur la santé des personnes.
Alors, Célia Renson, on va parler de l'association Réseau Vrac. Je vous demandais juste d'éloigner votre téléphone portable, ça crée des petites interférences. Vous êtes la directrice générale de cette association, mais vous, ça vous inspire quoi déjà cette situation? On va parler de la France parce que c'est le cas que vous connaissez le mieux. Il y a eu ce rapport de la Cour des comptes l'année dernière, je ne sais pas si vous aviez vu, 80% des déchets, pour 249 kilos de déchets par habitant par an qui se retrouvent dans la même poubelle, alors qu'il y a le tri sélectif en France. 249 kilos de déchets se retrouvent dans la poubelle générale. 80% de ces 249 kilos pourraient être valorisés s'ils étaient triés. Donc ça montre que finalement, le recyclage, c'est le premier problème dans la gestion des déchets en France.
Le premier problème, c'est les déchets, c'est l'usage unique.
Ça rejoint ce que disait Juliette Franquet.
Oui, tout à fait. En fait, nous, l'association, elle fédère les entreprises qui sont engagées pour une consommation vrac. Donc en fait, c'est les entreprises qui permettent aux citoyens d'avoir accès à des solutions pour la consommation du quotidien qui vont leur permettre de réduire la taille de leurs poubelles. Donc on fédère plus de 1000 entreprises aujourd'hui en France, des producteurs, des transformateurs, des magasins qui vont permettre aux Français d'avoir accès quotidiennement à une consommation qui permet de limiter les déchets. Donc c'est limiter le gaspillage alimentaire, limiter les déchets d'emballage jetable. Il faut comprendre en fait ce qu'on a aujourd'hui dans notre poubelle. Donc on l'a vu là dans nos rues, quand on l'ouvre, quand on l'analyse, on a aujourd'hui un tiers de biodéchets, donc c'est des matières végétales, des restes de repas, des choses comme ça. On a aussi 54 kilos de déchets d'emballage jetable. On a aujourd'hui en France une solution qui est à portée de main, qui existe, c'est le vrac. Et c'est ce que fait l'association Réseau Vrac aujourd'hui, c'est de mettre dans les mains des consommateurs le maximum de produits en vrac.
Donc vrac, c'est venir avec son contenant, c'est le la remplir vente, dans le magasin.
Oui, c'est ça. C'est en fait le fait de pouvoir acheter des produits en quantité qui est adaptée à ses besoins, donc consommer au plus près de ses besoins, et de venir avec un contenant ou de prendre un contenant en magasin qui est non jetable. Donc vous pouvez réutiliser un vieux bocal de confiture, vous pouvez prendre un sac en tissu. Et donc en fait, quand vous rentrez chez vous, vous avez acheté des produits qui vont correspondre à vos besoins, donc vous n'avez pas trop acheté. On sait qu'aujourd'hui, on jette beaucoup dans la poubelle des fonds de paquets qu'on a laissés traîner parce qu'on les a achetés en trop grande quantité, ou même des emballages, enfin des produits neufs. On jette 7 kilos de nourriture emballée. Donc déjà, évidemment, c'est une aberration environnementale avec ce qu'a dit Juliette au début. C'est des matières qu'on a extraites, c'est du CO2 qui est parce que c'est transporté, c'est de l'eau qu'on a utilisée pour faire pousser ces aliments, etc., donc qui est gaspillé, mais c'est aussi de l'argent qui est monopolisé. Donc c'est plus de 110 euros qu'on jette directement à la poubelle. Donc ça, c'est pour toute la partie déchets alimentaires. Et puis c'est tous nos déchets d'emballage jetable. Quand vous faites vos courses en vrac et vous prenez un sac en tissu ou un bocal en verre, vous rentrez à la maison, vous ne videz rien dans votre poubelle.
Et ça représente quoi le vrac aujourd'hui en France ou même au niveau mondial?
Alors c'est pas assez développé. Voilà. C'est un marché qui
est très
dynamique.
Est-ce que ça reste une niche aujourd'hui?
Ça reste pas une niche dans le sens où on a un tiers des Français qui achètent en vrac et la moitié de ce tiers qui le fait au moins tous les mois. Donc on a quand même plus de 8 millions de foyers français qui achètent en vrac, mais c'est évidemment pas assez. C'est pour ça qu'on a créé Réseau Vrac. C'est pour ça qu'on accompagne ces entreprises à développer plus de vrac. Et c'est pour ça qu'aussi, on travaille au niveau du lobbying pour pouvoir faire évoluer nos lois et que ces lois-là, elles poussent ce mode de consommation-là plutôt que l'usage unique.
Les lois, justement, c'est le principal frein. Il n'y a pas assez de volonté politique, selon vous. Il y a quoi ? Il y a un frein des industriels avec le suremballage.
Alors, il y a déjà une culture qu'il faut quand même changer. Ça fait plus de 60 ans qu'on nous a déshabitués à acheter, à choisir et à acheter des produits emballés dans des emballages à usage unique. Donc, on a aujourd'hui tout un système de production qui est tourné autour de l'usage unique. Des chaînes de conditionnement, des usines où tout est optimisé, tout est amorti, fait, etc. Donc ça, on ne va pas le changer du jour au lendemain.
Oui, ça peut tout bouleverser une économie.
Exactement. Mais on a aujourd'hui effectivement des entreprises, notamment celles qui sont adhérentes chez Resora, qui le font déjà. Donc ça veut dire que c'est possible. On a des entreprises qui se sont créées pour vendre en vrac. Et on a beaucoup d'entreprises, et notamment des grandes marques internationales, des grands groupes qui se mettent au vrac. Donc ça veut dire que c'est possible. Et la loi, elle doit encourager, elle doit pousser justement ces acteurs-là à le faire pour accélérer les choses. Parce que si on attend que les gens le fassent d'eux-mêmes, oui, on va le faire de manière très lente.
Donc là, c'est un appel. Clairement, la loi ne va pas assez vite.
Alors on a eu déjà la chance en France d'avoir la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, en 2020. On a la loi climat et résilience un an plus tard qui renforce ce mode de consommation-là. On a, en France d'ailleurs, par rapport aux autres pays, on est en avance là-dessus d'un point de vue législatif. Donc c'est bien, mais c'est jamais assez pour nous forcément. Ouais. Mais on va avoir 20% de produits présentés sans emballage qui va être consacré en 2030 dans les magasins de plus de 400 m². Donc là, on va avoir cette surface-là qui va augmenter.
Et quand justement, d'ici 2030, la Commission européenne propose que tous les emballages soient entièrement recyclables, pour vous, ce n'est pas la solution ? Parce que malgré tout, il reste l'emballage ?
Non, mais c'est la dernière roue du carrosse. Ouais. En fait,
ça veut dire que les décideurs ne prennent pas le sujet par le bon bout, finalement.
Évidemment.
On peut leur jeter la pierre.
La première chose à faire, c'est de se dire comment on fait pour réduire le gaspillage à tous les étages, donc les déchets, en favorisant d'abord les modes de prévention, les modes de réemploi, réutilisation, de réduction, et le recyclage, il vient après.
Anne-Cécile Bras, clairement, il y a un manque de volonté politique. Ce n'est pas la priorité. On a entendu ce plaidoyer en faveur du vrac de la part de Célia Renson.
Alors déjà, le vrac s'est pris un grand coup. Enfin, je pense que Célia va le confirmer, mais avec le Covid, puisque comme l'hygiène est passée par là, plus personne ne voulait consommer du vrac. Enfin, plus personne, j'exagère, mais disons que ça a un peu calmé les envies de vrac en France. Et dans beaucoup de pays du monde. Il faut relancer cette habitude. Ensuite, il y a plutôt une tendance à vouloir finalement appuyer le recyclage que le vrac, mais c'est une énorme hypocrisie, parce qu'il y a plein d'enquêtes qui sont sorties qui démontrent que en France, il y a à peine 30% par exemple du plastique qui est recyclé. Donc en fait, on fait tous des efforts pour trier dans des poubelles jaunes avec des éco-organismes, etc. Mais finalement, le recyclage aujourd'hui est très très peu employé.
Mais c'est quoi ? C'est du greenwashing ?
La chaîne, j'ai envie de dire. On peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, ça ne marche pas. Ouais. Et donc, c'est terrible, parce qu'on est déculpabilisé en tant que consommateur occidental, en se disant moi, je fais mon tri, donc c'est pas grave si j'achète des bidons de lessive, si j'achète plein de choses emballées dans du plastique, puisque je le mets dans ma poubelle jaune et que ce sera recyclé derrière. Mais c'est faux. C'est un énorme mensonge. En fait, une toute petite partie de ce que nous mettons dans nos poubelles jaunes est recyclée.
Juliette Franquet, j'ai l'impression qu'on assiste à un dialogue de sourds entre finalement ce qu'il faut faire et ce que proposent les autorités publiques.
Effectivement, on est dans une période très compliquée. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu des avancées réglementaires importantes depuis 15 ans, on va dire à peu près. Là, le modèle de société dans lequel on est sur le tout jetable, ça date à peine des années 50. Donc il y a eu un emballement pendant quelques décennies, et puis après on s'est rendu compte qu'effectivement c'est un modèle de société qui est désastreuse pour l'environnement, pour le climat, pour l'eau, pour les pollutions, etc. Et aussi qui tourne pas rond, il y a d'autres modèles économiques à inventer.
Après, comme disait Célia Renson, c'est aussi un modèle économique actuel. Est-ce qu'on peut le bouleverser ? Ça sert énormément d'emplois.
Mais bien sûr, alors, la question de l'emploi est très intéressante. Et pour donner un autre exemple, par exemple, dans la réparation, on peut créer 200 fois plus d'emplois Donc il y a des études qui commencent à sortir et qui montrent qu'il y a d'autres modèles économiques qui sont possibles. Et pour qu'ils puissent se développer et créer des filières d'avenir qui créent des emplois dans les territoires, eh bien, ça nous permet de... il faut absolument qu'il y ait une réglementation qui soit forte, des objectifs ambitieux, et il faut aussi des contrôles de ces lois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées. Et pour revenir un peu à l'échelle internationale, il y a eu des avancées, notamment sur l'export des déchets. Donc, par exemple, le plastique ne peut plus être envoyé n'importe comment. Et on voit la Chine a fermé ses portes il y a quelques années. Mais finalement, la Turquie reçoit plein de déchets. Le Ghana reçoit plein de déchets, que ce soit plastique ou textile.
Oui, donc, moins de 30%, nous disait Anne-Cécile Bras, du plastique seulement qui est recyclé en France. Donc, on imagine qu'à l'étranger, ça peut être bien pire.
Ouais. Après, nous, en tant que mouvement citoyen, on se bat pour qu'il y ait une évolution des lois. On voit des progrès, on voit des résistances. Et depuis la crise Covid et actuellement la crise énergétique, l'inflation, etc., les contre-pouvoirs, c'est-à-dire les lobbies industriels qui n'ont pas d'intérêt économique à court terme à changer de modèle, eux se battent pour rester dans leur modèle initial. Mais nous, il faut qu'on représente l'intérêt général et qu'on montre qu'il y a des solutions qui existent. Et nous, on a des collègues qui sont aux Philippines, en Inde, au Chili, au Ghana, qui mettent en œuvre des solutions pour réparer, pour réutiliser, pour mieux produire. Il y a des villes qui sont des villes zéro waste qui permettent de montrer qu'on peut réduire les déchets. Donc, ce n'est pas une utopie.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser, on rentre dans le vif du sujet. Notre question ce soir, c'est zéro déchet, est-ce que c'est possible ? C'est pas une utopie, c'est pas un idéal. Comment on fait pour arriver à zéro déchet ?
Moi, j'essaye toujours d'éviter le débat entre écologie pragmatique ou idéaliste, parce que c'est un peu piégeux. Mais ce qui est sûr, c'est que le zéro déchet, c'est une trajectoire et l'activité humaine crée des pollutions, donc on sera toujours amené à polluer. Mais là, on est arrivé à un stade où on prend enfin en compte les désastres environnementaux, il faut tout repenser. Et il y a des exemples concrets qui nous montrent en France, mais aussi à travers le monde, qu'on peut changer, que ça demande de repenser les modèles.
Alors, par exemple, vous disiez des exemples, vous pouvez en citer ?
Par exemple, la réparation. Par exemple, les déchets électroniques et ménagers. Au Ghana, à côté de la capitale, à Accra, il y a une zone avec... c'est hallucinant, je l'ai vu de mes yeux. On voit tous les déchets électroniques. Et ça, c'est parce qu'il y a une responsabilité des pays du Nord, enfin, donc nous, à racheter un téléphone portable tous les deux ans. Mais pour ça, du coup, il faut des lois. Et du coup, à Bruxelles, en ce moment, on réfléchit à faire des directives pour la réparabilité, pour la durée de vie, pour pouvoir avoir des pièces détachées. Donc il y a des choses qui avancent, mais les politiques publiques n'avancent pas assez vite au vu du désastre écologique auquel on fait face.
Célia Renson.
Oui, moi j'aurais parlé d'écologie réconciliatrice. En tout cas aujourd'hui, pour nous, le vrac, le réemploi des emballages, c'est des sujets du quotidien et c'est des sujets donc, qui concernent tout le monde, tous les acteurs, toutes les classes sociales, tous les secteurs d'activité aussi. Et il faut arrêter de penser que c'est des choses de niche. C'est des choses qui, en fait, qui nous concernent tous aujourd'hui dans la vie du quotidien. J'aime bien dire, on mange plusieurs fois par jour. Voilà, on prend une douche le matin, on se brosse les dents au moins deux ou trois fois par jour. On mange, on prend un repas chez soi ou à la maison, enfin, ou à l'extérieur. Pour tout ça, on fait ses courses. Et tout le monde fait ses courses. Il n'y a pas une personne qui ne fait pas ses courses et qui n'a pas ces choses-là du quotidien. Mais aujourd'hui, acheter ces produits en vrac ou acheter ces produits dans des emballages qui vont être réemployés, qui ne vont plus être jetés, c'est l'affaire de tous. Et c'est l'affaire à la fois des citoyens, des entreprises, des pouvoirs publics. C'est ce à quoi travaille aujourd'hui l'association Réseau Vrac. C'est de faire avancer cette cause-là auprès de tous, dans tous les milieux.
Il y a des avancées. On vous écoute que les autorités publiques ne font pas assez. Mais par exemple, les fast-food. Depuis le début de l'année, les enseignes de fast-food ont cette obligation, remplacer les emballages uniques par des emballages réutilisables, évidemment, quand les clients consomment sur place.
Alors là, je peux répondre parce que nous, on a fait une enquête terrain. Donc, les militants du réseau Zero Waste sont allés dans 300 fast-food pour vérifier si la loi était appliquée et plus de la moitié ne l'applique pas.
D'accord.
Donc, après, ça dépend si on voit le verre à moitié vide, à moitié plein. Et voilà, on n'est pas utopiste, mais on a un idéal qu'on veut atteindre, qui est la réduction drastique des déchets. Mais quand on voit qu'une loi qui a été préparée depuis 3 ans et des industriels qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires malgré une crise économique, c'est pas notre rôle d'entendre ces arguments-là. Et on voit qu'ils sont pas prêts et qu'il y a encore beaucoup d'emballages non réutilisables.
Donc on est encore sur le manque de volonté politique. Anne-Cécile Bras.
Oui, je vous écoute. Alors, c'est formidable de faire plein d'efforts à l'échelle franco-française, mais j'aimerais dézoomer un petit peu parce que il y a des chercheurs allemands qui ont inventorié les 10 plus grands fleuves transporteurs de plastique du monde. Il y en a 4 en Chine. Il y a l'Indus qui relie le Pakistan à la Chine. Il y a l'Amour qui traverse la Russie et le nord de la Chine. Il y a le Mékong, le Nil, le Niger. Enfin bref, ces 10 fleuves-là sont responsables de plus de 90% de la déverse océanique mondiale, par exemple, des déchets en plastique. Vous avez peut-être en tête les images des rivières de plastique qui ont engendré d'immenses inondations dans les quartiers de Kinshasa il y a quelques mois. Toutes ces bouteilles qui flottent à travers les ruelles et qui envahissent littéralement les villes africaines. On connaît les responsables. Hein. Enfin, je veux dire, il y a 120 milliards de bouteilles en plastique qui sortent chaque année des usines de Coca-Cola dans le monde. C'est 3800 bouteilles chaque seconde. Donc, on peut essayer derrière de réparer, de recycler tout ce qu'on veut, mais ce qu'il faut surtout, c'est limiter la production des déchets à la source. Et là, on n'y est pas du tout, quoi.
C'est les rançons.
Je partage tout à fait votre remarque. Alors, je vais donner quelques chiffres pour donner des exemples concrets aux personnes qui nous écoutent. Des chiffres qui proviennent d'une étude du WWF sur le vrac. Si chaque Français achète sa lessive en vrac dans un flacon qu'il réemploie, donc il ne va plus le jeter, hein, il l'a acheté une fois, eh bien, c'est 90% de déchets plastiques en moins pendant un an, parce qu'en fait, on vient recharger sa lessive à chaque fois. Mais c'est aussi 50% d'émissions de CO2 en moins, et c'est un tiers de consommation d'eau en moins, parce qu'on n'a pas eu à reproduire, en fait, ce matériau-là.
Et encore une fois, c'est vu de France. Je rejoins ce qu'a dit Anne-Cécile Bras.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une solution aujourd'hui. Plutôt que de reproduire à chaque fois des bouteilles à usage unique qu'on va jeter, on les produit une fois, on les réutilise et ça permet... On a ça aujourd'hui.
Mais quel pays propose le vrac? Tous les pays du monde ne proposent pas le vrac
aujourd'hui. Mais vous l'avez aujourd'hui dans pas mal de pays, de pays européens. Vous l'avez aux États-Unis, etc. Là, on a quand même des gros gisements d'amélioration de consommateurs. Et nous, on se bat aujourd'hui pour le faire avancer en France. On est un modèle, on est reconnu au niveau européen comme étant le pays le plus avancé dans cette matière parce que justement on a permis des avancées législatives, on a permis de faire en sorte qu'il y ait des acteurs, des entreprises, qu'il y ait plus de points d'ordre. On a 10 000 magasins en France qui proposent du vrac. Et si à un moment donné, on n'est pas capable de montrer qu'il y a un modèle qui fonctionne, on n'arrivera pas. Mais là, aujourd'hui, on montre qu'il y a un modèle.
Mais qu'est-ce que vous faites contre la production de plastique? Parce qu'on a bien compris que c'était le problème en amont contre lequel il faut lutter.
C'est les lois qui permettent de pousser davantage le vrac. En 2030, les magasins de plus de 400 mètres carrés doivent consacrer 20% de leur surface de vente, je vais la faire très courte, au vrac, ça c'est une avancée qui va permettre d'avoir plus de vrac et donc moins de jetables. Et on va continuer notre action sur le réemploi des emballages. Il y a une concertation en cours avec le ministère sur la consigne pour réemploi et au recyclage. Évidemment que les acteurs engagés dans une consommation plus sobre qu'on représente vont pousser la consigne pour réemploi. Il faut pousser des solutions.
Gilles Franquet, vous avez quel rapport avec les industriels? Parce qu'ils ont du poids, justement, avec ces emballages.
On a un rôle de lanceur d'alerte. Donc, on a déjà attaqué en justice plusieurs grands groupes pour ce qu'on appelle vulgairement du greenwashing. On a aussi attaqué l'État sur le fonds réparation, qui était censé être une manière d'aider les citoyens à rendre la réparation plus accessible financièrement. Après, je voudrais revenir sur le rôle international et effectivement le rôle. Coca-Cola est le premier exemple et nous, on fait partie d'une coalition qui s'appelle Break Free from Plastic, donc se libérer du plastique, où il y a des audits de marque et effectivement, on retrouve tout le temps les mêmes gros industriels partout sur les ramassages de déchets, etc. Le rôle des politiques publiques, c'est justement de créer un cadre réglementaire qui impose à ces grands groupes de ne plus pouvoir fonctionner comme ça. Et sur le plastique en particulier, il y a quand même un traité qui est en train d'être négocié. Et les prochaines négociations ont lieu à Paris fin mai pour essayer de réduire la production de plastique. Donc nous, en tant que mouvement militant, notre but, c'est de faire porter à la fois à l'échelle des collectivités de la France, de l'Europe et de l'international, toutes ces revendications pour réduire tous les déchets ménagers qu'on produit aujourd'hui.
Et quand on vous dit que d'ici 2050, on pourrait avoir 70% de déchets en plus, vous nous parlez d'un objectif de réduire les déchets.
C'est catastrophique. Et ce qui est aussi catastrophique, c'est qu'on arrive à des enjeux démocratiques où on vote des lois, on fixe des objectifs, mais on n'arrive pas à les atteindre. Et donc, quelle est la légitimité de ces lois si elles ne sont pas respectées et ces objectifs s'ils ne sont jamais atteints? Après, il faut qu'on avance de toute manière.
Bien sûr.
Et les solutions existent, donc c'est sur ça qu'il faut se focaliser.
Anne-Cécile Bras, on va dézoomer pour reprendre votre expression. Ça représente quoi le zéro déchet dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la crise écologique? Est-ce que c'est, entre guillemets, si important que ça? Parce que les déchets, c'est même pas 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Oui, alors c'est toujours pareil, hein. si on raisonne à l'échelle mondiale, dans la plupart des pays, ce sont principalement des déchets organiques, hein, comme les déchets de cuisine ou les déchets végétaux, qui, quand ils pourrissent, émettent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre dans ces décharges à ciel ouvert dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, évidemment que ça participe au changement climatique, mais ça a aussi des conséquences sur la santé, parce que ces décharges à ciel ouvert favorisent l'apparition de mouches, de pathogènes gastro-intestinaux, qui sont responsables de la propagation de nombreuses maladies. Ces décharges, elles entraînent aussi des ruissellements qui contaminent les eaux de surface. On a vu aussi dans l'actualité, on le voit régulièrement, des effondrements de montagnes de déchets qui causent de nombreux décès dans de nombreuses villes. Donc tout cela fait que, par exemple, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, dans le monde, il y a au moins 64 millions de personnes qui subissent directement la pollution issue des 50 plus grandes décharges du monde. Donc on est vraiment sur un enjeu de santé publique. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est des investissements forts dans les grandes capitales, notamment en Afrique, pour gérer ces déchets, pour qu'il y ait un enlèvement et un traitement de ces déchets. Parce que on a vu récemment à Kinshasa ces rivières de plastique. J'avais fait un reportage là-bas et on voyait clairement que, en fait, il y a des ramasseurs. Mais les ramasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent les déchets près des maisons et ensuite ils vont vider leurs brouettes dans le fleuve Congo. Parce qu'il n'y a pas de décharge, il n'y a pas d'issue. Donc il faut investir aussi massivement dans le traitement des déchets dans les villes, notamment africaines.
Célia Renson, il y a tellement à faire, il y a de quoi être inquiet pour l'avenir.
Oh, pas du tout. Non, moi je ne suis pas du tout inquiète. Je reste très optimiste parce que je vois en 7 ans ce qu'on a réussi à faire, en tout cas à notre niveau, à l'échelle nationale. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le problème, il ne va pas se résoudre avec un bout en fait, de la chaîne de valeur. C'est comme ça qu'en tout cas, on travaille chez Resovrac depuis 7 ans. C'est d'accompagner, comme le fait Zero Waste effectivement aussi très bien, c'est d'accompagner l'évolution du cadre législatif. Aujourd'hui, tous les acteurs, les citoyens et les acteurs privés, ils évoluent dans un cadre législatif. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire, etc. Donc on pousse les politiques publiques à effectivement valoriser les modes de distribution, les modes de consommation qui vont nous permettre d'avoir moins de déchets. Et on a déjà eu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On a la loi climat et résilience. Donc il y a déjà beaucoup de choses dans ces lois. Comme le disait Juliette, maintenant, il faut qu'elle soit appliquée. Et il faut aussi qu'il y ait des sanctions pour pousser les acteurs à s'y mettre. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a... Donc ça, c'est notre première chose, notre première mission. La deuxième, c'est qu'on accompagne toutes les entreprises à passer au vrac, à passer au réemploi des emballages. Parce qu'on ne peut pas dire aux citoyens « consommer avec moins de déchets » si on ne leur met pas dans les mains des solutions avec moins de déchets. Donc on travaille aussi avec les magasins, avec les producteurs pour qu'ils puissent développer le vrac, développer le réemploi des emballages et qu'il y ait plus de solutions comme ça et moins d'usage unique. Et enfin, on encourage tous les publics à aller vers ce mode de solution-là. Donc on organise, bah là ça tombe bien, on est en plein mois du vrac,
oui.
Donc qui est en train de qui va se clôturer vendredi, c'est de pouvoir aussi prendre la parole et montrer aux citoyens qu'il y a des solutions à leur portée de main pour leur consommation du quotidien et qui permet du coup de réduire ces déchets. C'est comme ça qu'on arrivera à une société vers moins de déchets. C'est en travaillant pouvoir public, entreprise et citoyen.
Et il y a beaucoup à faire en tout cas, mais on restera sur ce mot optimiste et on a bien compris qu'au-delà de recycler, c'est produire moins de déchets qui permet évidemment de réduire cette production de déchets au niveau mondial et ces perspectives qui sont inquiétantes. Merci beaucoup Célia Renson, cofondatrice, directrice générale de l'association Réseau Vrac. Juliette Franquet, merci. Directrice de l'association Zero Waste France. Et merci Anne-Cécile Bras, journaliste spécialiste de l'environnement à RFI, productrice de l'émission C'est pas du vent. Voilà, c'était ce débat du jour. Merci à Florence Ponce à la préparation de cette émission. C'était Laurent Philippot à la réalisation ce soir. Merci à la documentation de RFI. Et restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes. Le journal de 20h ici à Paris et RFI Soir.